Après deux jours, on célèbre le retour au travail de Denis Gravel dans le Pit Stop. Salut, mon ami!
Salut, Yann! Comment ça va?
Ça va bien? T'as de l'air à passer des belles vacances?
Oui, quand même! Petit voyage à Boston qui était prévu depuis presque un an, qui avait une signification particulière.
Ouais.
Parce que le premier voyage que j'ai fait avec ma blonde, c'est pour aller voir Ghost à Boston dans une salle qui était grosse, comme le Capitole de Québec à peu près.
OK.
Et 8 ans plus tard, ben on retourne dans la même ville voir le même band, mais au TD Garden,
dans grosse
sold
cabane.
Out. Ouais. Donc oui, ça a été un beau voyage, puis au-delà de ça, ça a été un bel été aussi.
Ah, c'est très cool, puis t'as coupé tes vacances, de ce que je comprends, là, quand Ozzy Osbourne est décédé, t'es rentré à job.
Ouais, ben Audrey m'a demandé de venir faire un tour, puis ça a juste été un drôle de concours de circonstances, parce que je venais pour parler d'Ozzy, et pendant que je m'en venais en char à station, la nouvelle que Hulk Hogan est décédé et a été diffusée à grandeur de la planète.
Uh-huh.
Fait qu'on a parlé de mort, si tu veux qu'on fasse.
Là, il y a le New York Times, pardon, qui vient de sortir le résultat du certificat de décès d'Ozzy Osbourne, qui est décédé à l'âge de 76 ans. On parle d'une crise cardiaque.
Oui, crise cardiaque, le cœur a lâché. Faut dire que ce cœur-là a enduré beaucoup au fil de la vie tumultueuse d'Ozzy Osbourne.
Ouais. Moi, c'est ce qui me fait capoter. Tu sais, un gars comme Mick Jagger, on le sait qu'il a abusé. Là, puis tu le regardes, puis ça fait 20 ans qu'il a de l'air en fin de vie.
C'est...
Puis il bouge encore.
Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'empare des gens qui arrêtent jamais. Puis c'est peut-être une des clés, là. Tu sais, Ozzy a toujours été actif d'une façon ou d'une autre. Puis à partir du moment où il l'a moins été, rapidement tombé malade, rapidement eu des problèmes de santé. Tu regardes l'historique de musiciens qui ont vieilli dans la musique, puis souvent, c'est ça qui arrive. Tant qu'ils font des tournées, on dirait qu'ils sont increvables. Mais la seconde où ils arrêtent, là, on dirait que la santé les rattrape, la maladie les rattrape, et ainsi de suite. Puis tu vois des musiciens faiblir en l'espace de 2 ans, justement parce qu'ils ont lâché le beat de tournée. Mais la fontaine de jouvence des musiciens, c'est peut-être ça, de jamais arrêter.
Mais je pense que pour tous les travailleurs, c'est ça.
Oui, je pense que oui, t'as raison.
C'est peut-être des hasards, je ne sais pas s'il y a des études à ce sujet-là, là, mais il y a plein de gens qui prennent leur retraite, des hommes et des femmes d'affaires, puis après 2 ans, pauvre cancer.
Ouais.
Puis là, il creuve. Voyons, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais l'idée, c'est de se garder actif. Tu sais, au-delà de la job ou n'importe quoi, c'est le défi quand t'arrêtes. C'est de continuer. Tu sais, il y a du physique dans chaque métier. Je comprends que nous autres, on fait pas du recouvrement de toi.
Non.
Mais on va être capable d'avouer ensemble que physiquement, recommencer hier, ça a donné un coup pareil.
On a un drôle de métier. On parle aux gens qui sont à l'extérieur quand ils faisaient un genre de 36-37 comme température ressentie. Nous autres, on avait les petits bouts durs en studio à l'air climatisé, puis on disait aux gens, lâchez pas à l'extérieur.
Ben oui, c'est ça, c'est ça. Puis après ça, on se dit, hey, ça fait mal dans le dos, recommencer à faire de la radio.
Mais jamais abandonner ce que tu fais, puis toujours bouger. C'est drôle parce que quand on est jeune puis on se considère encore comme jeune, là, t'sais, notre premier objectif quand on est en vacances, c'est de bouger le moins possible, de relaxer le plus possible.
Oui.
Puis là, on se fait dire, ben l'objectif, c'est de jamais arrêter. Comme ça, vous allez durer plus longtemps.
Puis le pire, c'est qu'on l'oublie. Puis je t'entendais parler de tes vacances avec tes gars hier. T'sais, puis ils s'attendent tout le temps à un feu d'artifice, puis c'est Disney World à tous les jours.
Oui.
Alors que des fois, on se rend compte qu'eux autres aussi, ils ont le goût juste d'être écrasé sur un divan pendant 2 jours à rien faire. Puis on dirait qu'on se force parce qu'on se sent coupable. Moi, le premier, quand ça fait 1 heure qu'ils sont en avant de la TV, après ça, je viens comme fou. Là.
On le prend sur nous autres.
Oui, exact.
Mais quand on était jeune, ça faisait du bien de pouvoir faire ça sans que personne nous dise « Ouais, faudrait que tu te lèves, là, faudrait que tu fasses tes devoirs.
Ouais. »
Je même pas soucié si quelqu'un va nous dire de se lever.
Mais c'est peut-être nous autres le problème. Parce que je regarde notre génération, quand nous, on était jeunes, il n'y a pas de parents qui prenaient par la main leurs enfants pour leur faire faire constamment des activités.
Non. On nous mettait dehors puis ils barraient la porte.
Ouais.
C'était
non,
organisez-vous.
Mais...
Ben oui. Mais là, maintenant, t'as une industrie maintenant qui existe autour du divertissement pour enfants qu'il n'y avait pas nécessairement quand on était petit. Quand on était ticu, avant que le village vacances Valcartier existe, mettons, là, tu sais, il y avait quoi? Il y avait l'expo.
Oui.
Puis on savait c'était quelle fin de semaine de l'année.
Mm-hmm.
Le restant du temps, il y avait quoi? Les parcs de jeux, c'était 2 balancing en tôle, pas des balançoires, des balancing, toutes rouillées. Il y en a une que les flots avaient fait rouler autour du truc.
Oui.
Puis on n'était pas capable d'aller chercher personne.
Puis quand t'étais chanceux, quelqu'un s'était balancé puis avait échappé 2-3 piastres dans le sable en dessous.
Puis il y avait la roulette qui spinait aussi. Là.
Puis là, tu vas...
Tu te souviens pas, là?
Oui,
non?
Le carrousel.
T'as-tu eu le carrousel?
Ah, ça, avec les poteaux. Oui, mais ça, ils ont enlevé à un moment donné. C'était dangereux.
On propulsait du monde, nous autres, là-dedans. Ou t'en kidnappais un dans le milieu, puis tu spinais ça jusqu'à ce qu'il vomisse. Bref, on manquait peut-être de moyens de divertissement.
Avez-vous eu les gros tubes aussi, là? qui était un peu surélevé avec deux chaînes. Tu mettais du monde là-dedans, puis tu swingais ça, puis des fois, il t'en sortait un ou deux, puis le but, c'était
non,
en
sortir. Non, moi, c'était un peu plus tard, ça.
Ouais.
C'est arrivé un petit peu plus tard pour nous autres.
Nous autres, c'était dans le temps des premiers parcs de jeux Ronald McDonald où les jouets étaient faits en tôle, puis au-delà de 25 degrés, tu mettais tes founes là-dessus, puis tu grillais comme un œuf.
L'enfer. Brûlure au troisième degré.
C'était incroyable. Tu pouvais perdre connaissance dans le chapeau du capitaine Burger. Tu sais, quand tu montais en haut, là, il faisait tellement chaud, si t'étais pas capable de redescendre en 10 secondes, tu perdais connaissance. Ah, c'était le fun, la jeunesse. Hein?
Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'en tant que parent, il faut jaser des fois, parce que si nos enfants sont rendus à attendre toujours qu'on leur propose des activités, faut peut-être inverser la tendance. Là. C'est à vous autres aussi de nous proposer des activités. Savez-vous quoi? Vous êtes deux. Moi, j'ai la chance d'en avoir deux.
Mm-hmm.
Vous êtes deux. Allez dehors et amusez. Ouais, mais là, nos amis, ils sont pas là.
Ils sont pas là.
C'est quoi? Ouais. Vous êtes deux. Prenez vos vélos, dégagez.
Il fait trop chaud. Il mouille trop. Il y a tout le temps d'affaires.
Ouais. Tu sais, je me suis surpris aussi. Je pense que c'était à toi, je l'avais raconté. Mais quand je dors chez eux, quand ils sont en Beauce, quand leur mère est en congrès ailleurs au Québec, ben je dors chez eux.
Mm-hmm.
Puis le sentier, ils ont un petit sentier à faire que je vois. Là. C'est un genre de sentier de peut-être 100 mètres. Puis au bout du sentier, il y a l'autobus. Ben, je suis pas capable de ne pas regarder qu'est-ce qui se passe dans le sentier jusqu'à temps que l'autobus arrive.
Je comprends très bien.
Mais nos parents, là, ils savaient jamais où est-ce qu'on était. Là.
Hier après-midi, on a parlé de ça. Hier après-midi, j'ai jasé de ça avec les filles que j'essaye de comparer le lousse que me donnait ma mère quand j'avais 9-10 ans versus le lousse que moi, je donne à mes enfants au même âge. Puis je suis obligé de te dire qu'on est pas mal plus conservateur. Puis j'ai jasé avec ma mère cet été de ça.
Il nous aimait-tu moins?
Ben, c'était des grosses familles. T'en perdais un, c'était moins pire.
T'en avais encore.
Il avait 12.
Donc, mais il était moins stressé, on dirait.
Ben, ma mère s'est vendue cet été quand je lui ai parlé de ça parce que je disais, maman, tu me laissais traverser le boulevard pour aller à l'école. Tu me laissais monter jusqu'en haut à l'accommodation, André. On allait jouer à telle place, tu savais pas où ce qu'on était. Elle m'a dit, tu sais, Denis, il y a bien des fois que j'étais pas loin puis tu me voyais pas. Fait que ma mère, elle faisait de l'espionnage.
Elle faisait ça. Ouais,
T'es-tu certain qu'elle est honnête là-dessus?
Je connais suffisamment ma mère. Okay. Je trouvais tellement... En fait, je me culpabilisais beaucoup parce que je me disais, je suis donc bien pas permissif avec mes enfants parce que ma mère est une mère poule, là, avec un P majuscule, puis elle me permettait de faire ça, Je trouvais quasiment que c'était hors personnage.
Mais t'es pas dans le buisson comme ma mère, c'est certain?
Non, mais moi, je le fais aussi. Puis regarde, le plus jeune a commencé à aller se promener un petit peu dans le quartier, là. Puis j'envoie le grand faire de la patrouille, là, tu sais. Va juste voir si il est encore à destination de son objectif.
Mais honnêtement, les parents nous voyaient juste... Je veux dire, on partait, nous autres, nous donnaient 2$, OK? Puis le dépanneur était au moins à 5 km à pied. Ou on partait en vélo. Les seules fois qu'on revenait ou revenait pas, c'est quand on avait les genoux en sang ou la fois que j'ai foncé dans un arbre, j'ai perdu connaissance. C'est là, ça. Ils ont entendu parler de nous, là,
pense
plus rapidement
qu'au souper. Je pense que je suis rendu momoun.
Comment vous faites?
Je sais pas. Je sais pas. On dirait que j'ai moins confiance en l'être humain. Moi, dans un sens unique, là, quand je traverse, je regarde les deux bords pareil.
Qu'est-ce qui me fait peur, les gars? C'est-tu vos enfants, vos gars dans ce cas-ci, qui vous font peur ou c'est les gens autour?
Les gens.
Oui.
Les gens.
Je te dirais que quand ils sont tout seuls dans leur chambre, j'ai pas confiance en eux. Mais quand ils sont dans la société, j'ai moins confiance en la société.
C'est que moi, j'en ai un qui est atteint de ce qu'on va appeler de la belle naïveté, là. Hey, salut, embarque dans mon char, on va aller quelque part. OK, veux-tu que je te parle des Bruins? Veux-tu que je te parle de mon ami Jean-Philippe, de mon copain Shane? Puis, tu sais,
c'est un jaseux.
Il est tellement altruiste qu'une proposition à aller jaser.
Moi, je ne parle plus, Arthur. Hein? tu sais pourquoi?
Pourquoi? Il parle trop?
Mais non, mais il m'a rabaissé.
Comment? Pourquoi tu dis ça?
Pendant le match boulevard, il est venu me voir et il me dit. Spike, tu vas être meilleur que l'année passée.
Mon nouvelle idole.
Je pense qu'il se faisait souffler ses phrases quand il a fait le journaliste.
Tu vas être meilleur que l'année passée. Hey,
quel genre de journaliste que t'es, Arthur?
Baveux. Il était parfait. Mais oui, je pense qu'on est on est un peu plus soft que nos parents l'étaient. Hey, je t'ai envoyé, je sais pas si tu peux regarder ça dans le Messenger du Pit Stop, que la photo que j'ai envoyée dans les dernières secondes. T'as-tu entendu parler, PSPP, sur les ondes de TVA Nouvelles concernant la criminalité à quel point la criminalité, selon lui, avait augmenté comme pas possible. Et là, ça justifiait peut-être de regarder les sentences que les jeunes pouvaient avoir. Parce que de plus en plus, les gangs de rue utilisent des jeunes parce que les sentences sont moins élevées s'ils se font prendre.
Ben, on a eu des histoires horribles là, dans la région de Québec avec des flots de 14 ans. Pis...
Exact. Ouais. Et là, lui, il commence à dire que là, c'est dangereux vivre au Québec. Là. Puis là, c'est de plus en plus dangereux. Puis en regardant des statistiques, puis c'est des statistiques, je peux remonter jusqu'en 1998, OK? 1998, là, l'indice de gravité de la criminalité au Québec. À Québec, on était à 115, OK? Et là, maintenant, on est à 65.
Oui, mais on est en pleine guerre des motards aussi. Là. Ça débute en 94 jusqu'en 2002.
Les Rock Machine puis les Hells
c'est
Angels.
C'est sûr que si on regarde cette année-là, il faut le savoir.
Je sais, mais là, je veux dire, en 2002, ça finit la guerre des motards?
En 2002 environ.
Bon, puis le graphique est encore en descendant.
Mais est-ce qu'on veut que ça remonte?
Je pense que c'est des moments isolés qui arrivent dans notre société. C'est des gros faits divers. Puis ça passe tellement partout, ces réseaux sociaux, TVA Nouvelles, RDI, les politiciens s'en mêlent, qu'on a l'impression qu'il y a plus de criminalité qu'avant. Mais dans les années 80-90, il y en avait de la criminalité, mais c'était pas couvert autant qu'aujourd'hui. Puis les statistiques démontrent que Paul Saint-Pierre Plamondon est dans le tort là-dessus.
Des années 70, quand j'ai parlé avec un vénérable cet été qui a vécu à Québec toute sa vie, puis qui trouve ça bien drôle qu'on capote avec Saint-Roch présentement, puis qui me parlait du Saint-Roch des années 70, justement, qui s'étendait quasiment jusqu'à Lévis, là, au niveau de la criminalité, puis ainsi de suite. Je pense que... Je veux pas être trop cynique, mais je pense qu'il y a des incontournables qui vont de pair avec le climat économique et ainsi de suite. Tu sais, c'est plus dur d'arriver... Il y a plus de crimes, il y a plus de dépression, il y a plus de faiblesse mentale. Puis à un moment donné, l'économie se replace, puis à un moment donné, le taux de chômage baisse, puis à un moment donné, l'inflation redescend, puis là, whoop, tous ces indices-là redescendent aussi. C'est-tu juste cyclique avec ce que vit la société, tu sais, les hausses de criminalité, là?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est parce que j'étais un peu... Quand j'ai écouté Paul Saint-Pierre Plamondon vendredi, j'étais d'accord avec lui.
Ouais.
Puis là, en regardant un peu sur Google la criminalité au Québec, on regardait les statistiques, je suis tombé sur un tableau de la presse qui est assez facile à comprendre. Là. Puis tu vois clairement le graphique qu'il y a beaucoup moins de criminalité que dans les années 90. Puis si tu remontes plus loin, les années 80, tu sais, toi, t'as connu, tu t'es fait raconter les années 70. Moi, les années 80 dans Saint-Roch, je les ai connues. Ouais. Les années 90 dans Saint-Roch, je les ai connues. Puis écoute, c'était hallucinant à quel point il se passait des choses dans nos rues, mais on n'entendait pratiquement pas parler.
C'est sûr que de regarder ça avec un peu de recul, ça permet de replacer les choses peut-être dans une meilleure perspective. Mais en même temps, on a parlé souvent ensemble sous l'heure du midi, on est des parents, puis je pense que l'idée d'être parent, c'est de laisser la société dans un meilleur état que celle que nous autres, on a reçue quand on était petit. Puis là, ben, les indicateurs, présentement, nous montrent qu'effectivement, pour la première fois de nos vies d'adultes, nous autres, on voit une hausse significative de la criminalité autour de nous autres. On n'a pas besoin de regarder les tableaux. T'sais, on en a parlé ensemble dans la dernière année à Québec avec la nouvelle guerre des bandes criminalisées pour le trafic de drogue et ainsi de suite, les histoires de torture au chalumeau, les histoires de flots de 14 ans avec
ça
des
se ramasse 47. Ces réseaux sociaux, mais c'est ça que je dis, parce que dans les années 80, ça se ramassait pas dans les réseaux sociaux. Non. Ça n'existait pas, excuse-moi Pascal. Ça n'existait pas les réseaux sociaux dans les années 80. Fait que
il y avait le photopolice pour nous faire peur un peu.
Il y avait le c'était trash, ça.
C'était trash,
en Saguenay. Il y en a encore au Saguenay, mais c'est pas le même genre.
C'est pas rien que les vieux volumes, il y en a encore.
Il ferait en sorte de vendre dans les épiceries les vieux volumes?
Je sais pas. Mais c'était tellement trash, ça, que tu disais, c'est probablement toutes des histoires inventées.
Ouais, ben oui, ben la moitié, probablement.
Hey, t'avais des photographes qui allaient prendre une photo de la victime qui avait été trucidée, qui mettaient ça en page couverture.
Quand il y avait un motard ou un mafieux qui se faisait éclater la tête, ben t'avais l'écrapou de la tête en une du photopolice.
En une, entre les deux barres de chocolat qui vendent dans l'allée de l'épicerie.
C'est juste que là, la criminalité fait beaucoup la manchette avec la petite guerre des motards qu'on a. Ben, on a l'impression que c'est plus dangereux qu'avant se promener dans nos rues. La réalité, c'est quand on regarde les statistiques, non. On est au Québec, on est chanceux, c'est encore extrêmement extrêmement sécuritaire.
Ça me fait un peu penser à l'alcool au volant et ainsi de suite. T'sais, si tu regardes le chemin qu'on a fait depuis les années 70, c'est exceptionnel comment on s'est responsabilisé. Est-ce qu'il en reste? Oui. Est-ce qu'il y a encore des tragédies? Absolument. Mais tu as des organismes qui, des fois, justement, à trop vouloir faire objectif zéro, un moment donné, ça crée l'effet contraire. On a parlé de l'éco-fatigue ensemble le printemps passé. Oui. Tu sais, à force de faire la morale au niveau de l'écologie et ainsi de suite, ben, tu as une nouvelle génération qui ne nous prend pas au sérieux puis qui se dit, ben là, votre affaire de paille en carton puis de fourchette en bois, là, je veux dire, come on, là, tu sais, je vais le jeter à terre, mon papier, parce que là, vous me niaisez. Là, tu sais. Il y a l'usine qui pollue à côté de chez nous, puis toi, tu vas dire que ça me prend une fourchette en bois pour manger ma poutine.
Ouais. T'as-tu entendu parler de l'histoire de Pierre-Luc Lachance, le conseiller Capitaine Bretelle, qu'on aime bien l'appeler, qui a contacté personnellement Audrey?
Ben oui, elle nous l'a conté hier en onde.
Parce qu'Audrey a fait une joke, là, elle a pas dormi... Où est-ce qu'elle a dormi, Audrey?
Audrey est sur la route.
OK, oui. D'accord. Fait qu'elle a dormi encore sur la route et elle avait pas de sac à lunch, fait qu'elle a pris un sac mauve que la ville nous donne pour, mm-hmm. pour pouvoir mettre notre compost à l'intérieur, puis après ça, mettre ça dans notre bac, puis ça a l'air qu'à l'usine, ben, il sépare le petit sac mauve... des vidanges, puis après ça, ben le sac mauve s'en va à l'usine de biométhanisation, puis on fait de l'énergie avec ça. Puis après ça, le sac mauve part, puis il s'en va où? Il s'en va à l'incinérateur, puis il passe avec toutes les autres vidanges. Mais Pierre-Luc Lachance a vu qu'Audrey avait utilisé un sac mauve. En faisant une joke, là. T'sais, elle n'avait pas d'autres alternatives. Fait qu'elle a pris,
elle n'a pas tagué la ville. Hein,
elle a pris le sac mauve, elle n'a pas tagué la ville.
Elle a dit merci à la ville de Québec pour mon sac de lunch aujourd'hui, mais elle n'a pas tagué.
Et le conseiller responsable de Saint-Roch là, l'a écrit personnellement en disant que comme elle était une personnalité publique, elle devait montrer l'exemple.
Ouais, ce qui me fait plus rire, c'est qu'il y en a qui courent après cet homme-là depuis des mois, mais lui, il s'en va au delà. Ça
me fait plus rire. Ce qui me fait le plus rire, c'est que lui et Jonathan Julien disent que dans le quartier Saint-Roch, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a aucun problème. Puis la semaine dernière, ils sont partis sur l'histoire de la fontaine là, dans le parc Saint-Roch.
Ouais,
là.
Ouais.
Puis là, le maire a dit « Ouais, mais là, ça va prendre quelques années réparer ça. » Chris, encore une fois, que je ne suis pas gestionnaire au village vacances Valcartier. T'imagines-tu le gestionnaire au village vacances Valcartier qui là, est en train de regarder sa glissade, ses fontaines, puis là, il dit « Ah non, ça va, ça. Non, on va y aller lentement, ça va prendre 3 ans à réparer ça. » Ils ont pas eu moyen d'arrêter les fontaines là-bas, eux autres, là. Mais nous autres, ça va prendre 3 ans à réparer une fontaine au parc Saint-Roch. Mais t'as Capitaine
Bretelle,
lui...
Et 2 millions de dollars minimum.
T'as Capitaine Bretelle, lui, qui a rien à faire, puis qui écrit à une citoyenne qui est même pas de Québec, soit dit en passant.
Ben non.
Madame, vous devriez faire l'exemple. Occupe-toi de Saint-Roch. Moi, j'habite maintenant à Saint-Roch. Saint-Roch, c'est une catastrophe.
Ouais.
J'ai appris quelque chose aussi. Il y a une brigade à chaque matin qui fait le ménage. Puis je les salue. Je ne sais pas c'est qui ces gars et ces filles-là.
C'est-tu des bénévoles? C'est-tu des employés de la ville?
C'est une bonne question.
Des citoyens,
je vais y aller
peut-être?
Avec une hypothèse. Je pense que c'est des gens qui sont en réinsertion à l'emploi.
OK.
Mais okay. C'est une genre, ça s'appelle la brigade.
Mm-hmm.
Leur bureau est situé sur Charest, là, carrément, assez, je dirais, à 2-3 minutes de l'Aube-Rivière. Puis à tous les matins, je les vois sortir de là avec leurs balais puis leurs affaires, puis ils font le tour.
Bravo.
Ils font une super de belle job. Mm-hmm. Moi, je les ferais travailler 24 heures sur 24 dans ce secteur-là.
Pour voir le bout.
Mais Pierre-Luc Lachance, que tout le monde cherche là, pour jaser, pour parler des dossiers, lui, il s'en va sur Internet écœurer une petite animatrice de radio.
Il est tombé, tu le sais, sur la personne la plus gentille au monde. Donc, c'est pas dans le tempérament d'Audrey d'être baveuse.
Mais t'aurais pas écrit à toi. Là.
Ah, mais ça aurait été tellement facile de répondre. « Monsieur Lachance, occupez-vous de votre quartier, moi m'occuper de mes sacs mauves. »
Mais tu l'as juste survu.
Toi, t'aurais pas répondu?
Mais non.
Ah ouais, tu l'aurais ghosté.
Moi, j'aurais enregistré l'appel, je l'aurais FaceTimé. C'est clair, de répéter.
J'ai appris que je travaillais avec une influenceuse.
Oui.
Très tendance.
Audrey, elle influence tout le monde.
Oui.
Hey, la grève au RTC pendant le Festival d'été de Québec, bon, on l'a mentionné, là, c'était pas très fort de la part du syndicat de faire une grève pendant le Festival d'été de Québec, mais soit dit en passant, les gens de Québec sont extrêmement résilients et tout le monde a trouvé une alternative pour qu'on ait un super de beau Festival d'été. Donc,
il y a eu plein de monde.
Salutations à tout le monde.
Mm-hmm.
Radio-Canada a réussi à connaître les chiffres là, concernant cette grève-là en ce qui a trait à est-ce qu'on a perdu de l'argent avec le RTC ou on a fait de l'argent avec le RTC. Concrètement, ce qu'on nous mentionne, c'est que le RTC, avec le fait que les chauffeurs ne travaillaient pas, avec le fait que les mécanos puis les gens d'entretien ne travaillaient pas, ils ont réussi à économiser pendant 10 jours de grève 240 000 $. 668 chauffeurs ne travaillaient pas, 318 employés d'entretien. Là, je fais le calcul rapide, je me dis, ça ne fit pas. L'organisation estime avoir fait 2,78 millions de dollars d'économies grâce aux salaires non payés, donc près de 1000 employés. Donc ça, c'est les chauffeurs plus les employés d'entretien qui étaient sans rémunération pendant 10 jours, pendant la grève du syndicat. Et le RTC évalue cependant avoir perdu 2,55 millions de dollars en revenus en raison notamment des pertes en vente durant cette période, mais aussi en incluant l'estimation des remboursements anticipés et les frais de transaction associés au remboursement. Denis, pendant 10 jours, qu'est-ce que les gestionnaires au RTC ont fait? Ceux qui s'occupent des chauffeurs, ceux qui s'occupent des employés d'entretien, ils ont fait quoi pendant 10 jours, eux autres?
Ils sont allés au festival d'été, en char! Ils n'ont pas dû faire grand-chose, là. Mais tout est arrêté.
Fait, on a arrêté les chauffeurs.
Mais eux autres ont continué de travailler.
Mais il n'y avait pas de clientèle, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien qui marchait. Tu sais, nous autres, mettons que la console saute.
Oui.
Puis qu'on peut pas faire de radio.
Ouais, reste à la maison.
Ben, je ne viendrai pas m'asseoir au bureau ici, me tourner les pouces. Okay,
laisse-moi, tu payes sûrement le faire. Ça me prend ma paye.
OK, il me paye pas si je suis chez nous. Ah, ben, je vais venir aussi.
C'est ça. Mais si, oui. Techniquement, c'est leur problème technique.
Ben c'est ça.
Ils nous payent.
Mm-hmm. Oui. Je pense que oui.
Fait imagine.
On pourrait rester à la maison. Mais le point est que...
Le vénérable André Arthur, quand l'ascenseur fonctionnait pas, restait dans son pick-up. Ben, lui fait compter tellement souvent depuis que je travaille ici.
Ouais, c'est le seul qui va pas être envoyé pour ça, par exemple.
Ouais, c'est sûr que si Pascal CV décide de rester
si
dans son
char... Si je fais ma princesse,
ouais,
moi,
peut-être
là.
Moins.
Moi, je m'en vais au Kilimanjaro, j'y montrerai pas les 5 étages. Yannick, appelle-moi.
Ouais,
je pense
ouais.
que ça va être bye.
On appelle ça le statut légendaire, je pense.
Il est arrivé avec son vieux Ford d'expédition 2006. Parce que je me souviens de la date, parce que je me souviens de l'année, parce que je voulais y acheter et m'envoyer chier. Mais... Il arrivait avec son vieux Excursion, son gros Ford Excursion
c'était 2006
vert. Il l'éteignait jamais. Mm-hmm. Donc, j'imagine qu'il l'éteignait chez eux, là. Mais quand il arrivait ici, ou quand il travaillait à Choix, il parquait ça en face de la porte, là, au débarcadère.
Ouais.
Il barrait les portes, le véhicule fonctionnait.
Ça
fait pas de
sens. Il montait en haut une heure et demie, faisait son émission, puis il repartait avec son char qui était bien chaud, qui n'avait jamais arrêté.
En tout respect, parce que j'ai eu des bonnes conversations avec lui, mais ça, c'était paix.
Il allait au Saint-Germain, tu sais, le restaurant qui était un petit peu
oui,
grand aller.
En retrait, le sourcellerie.
Si tu voulais savoir si Arthur mangeait ce soir-là, tu regardais en face du Saint-Germain, puis s'il y avait un char qui était parqué directement à l'endroit où les handicapés peuvent monter le petit trottoir, là, c'était Arthur.
Ça, c'était paix, par exemple.
C'est comment qu'on dit ça? C'est pas éco-responsable.
Ben non, mais là, je comprends pas pourquoi il n'y avait pas de contravention.
Ben, c'était un gars de sa génération.
J'étais allée au Saguenay une fin de semaine. Le soir, j'ai pas vu qu'il y avait un logo pour personnes handicapées sur la route. J'avais jamais vu ça à la base. Sur le bord d'une route, OK? Puis, il était effacé. C'était le soir, j'ai pogné une contravention de 380$.
Ouais.
J'ai été là 10 minutes, c'est 4 flashs. J'avais pas vu le logo handicapé. Laissez-moi une putain de chance. Pourquoi lui...
Vous savez comment sont faites les locaux ici chez Leclerc Communication? Les patrons, les fenêtres donnent sur le stationnement. Puis moi, j'essaie de m'imaginer la scène. T'sais. T'as le thème d'André Arthur qui joue en onde. Il y a personne en studio. Puis eux autres ont vu sur André Arthur qui est dans son char, dans le parking, puis qui bougera pas de là. C'est pas vrai que vous allez me faire monter les escaliers.
Dans mon ancienne job, là, l'équipe du retour, quand l'ascenseur fonctionnait pas, faut être sûr d'attendre en haut avec le genre de kit pour la crise cardiaque. Là.
Ah ouais, c'était pas facile?
Ben, je veux dire, 5 étages.
Les bedaines de radio, hein? Les ouais. légendaires. Vous autres,
le feriez-vous à chaque jour?
Ben, moi, je les prends pas, les ascenseurs. Ouais. C'est mon seul exercice.
Tu montes l'escalier chaque fois?
Tu m'as jamais entendu arriver souffler ici comme si je venais de monter le Kilimanjaro?
Ça, le Kilimanjaro, c'est dans le nord du Québec, hein, Denis?
Oui, t'es allé d'ailleurs, on se rappelle. Mais tu sais, moi, je monte les marches pour venir travailler ici, puis il y a des gens qui font du jogging, hein, qui s'entraînent. Ouais. Le temps de monter les 5 étages, j'ai le temps de les croiser 4-5 fois, là. L'aller, le retour, salut, salut. Aller, retour, salut, salut.
Tu t'es pas amélioré après 3 ans ici?
Non, je reste stable.
C'est bon.
Oui.
Un homme de constance.
Je vais continuer de perdre du poids.
Non, c'est ça, c'est ça. Bref, c'est un beau petit moment, celui-là. Hey, secteur d'Estimoville, il va y avoir une nouvelle clientèle dans ce secteur-là, puisqu'on a pris des conteneurs, tu sais, des conteneurs qu'on peut voir sur les trains.
Oui.
Puis on a décidé de faire des mini-maisons pour les itinérants. On est rendu là, c'est un projet pilote s'appelle le module d'hébergement transitoire, qui va être dans le secteur d'Estimoville, juste à côté des gens, de tes amis, là, la CNESST.
T'as la CNESST qui est déjà là.
Oui, mais ils étaient dans Saint-Roch, eux autres.
Oui, mais
ils sont partis de Saint-Roch, pourquoi?
À cause de l'itinérance.
Puis là, ils sont à Destimoville.
C'est des bonnes jokes. Ça ne s'écrit pas des bonnes jokes demain.
Puis on va amener les modules d'hébergement transitoire à quel endroit?
Dans leur cours, littéralement.
Carrément à côté, dans leur cours. Je sais pas. Tu sais, moi, il y a une infirmière qui a fait partie de ma vie assez longtemps là, qui m'expliquait que... Elle se faisait constamment dire que c'était beaucoup moins cher pour le système de santé de prendre une infirmière, la mettre toute la journée sur la route pour aller rencontrer 5-6 patients. Elle me dit que c'était plus rentable pour la société que si tu prenais ces 5-6 patients-là puis t'es mettais sur le même étage à l'hôpital.
OK.
Moi, je crois pas à ça.
C'est weird.
Je sais pas comment ils ont réussi à faire passer ces chiffres-là. J'imagine qu'il y a des comptables qui se sont penchés là-dessus puis avec leur science, regarde, ils ont réussi à expliquer ça, mais une infirmière pourrait faire 25-30 patients sur le même étage là, dans la même journée. Là, moi, mon infirmière... pas la mienne, mais à partager ma vie.
Tu posséderas jamais personne, Yannick.
Elle se promenait à Québec dans le trafic. Après ça, son secteur, c'était la Haute-Ville. Fait qu'elle avait jamais de stationnement. Mm-hmm. Fait que des fois, ben, le cinquième patient qui était supposé aller rencontrer, elle se rendait pas parce que son corps de travail était fini. Mais le gouvernement dit non, c'est pas mal plus rentable. Là. Ces gens-là sont dans la société, là, ils habitent chez eux, puis là, les infirmières se promènent à gauche puis à droite. Puis là, ben, quand ils ont besoin d'aller rencontrer un médecin, ben, il faut envoyer quelqu'un. Souvent, c'est un membre de la famille qui vont le prendre puis qui va l'amener à l'hôpital. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce genre de projet pilote-là pour les itinérants va fonctionner. Je le souhaite de tout cœur, soit dit en passant, parce qu'il y en a de plus en plus à Québec. On le constate, on en a beaucoup parlé. Mais je pense à tous ceux qui, actuellement, n'ont pas les moyens de s'acheter une maison. Puis ils se disent, attends un peu. Là. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une maison. Juste de m'acheter un terrain à Québec, j'ai pas les moyens. Puis là, je suis en train de payer pour des projets pilotes qu'on sait pas trop si ça va fonctionner ou on va... faire résider des itinérants dans des maisons dans l'espoir qu'eux autres, ils puissent se trouver un appartement après. Parfait. Ils vont le payer comment, leur appartement? Parce que l'aide sociale, Denis, là, c'est en bas de 1000 piastres. Trouve-toi un appartement en bas de 1000 piastres à Québec.
Tout un défi en partant. Hein? Puis je pense que c'est le genre de projet qui s'adresse à une clientèle très, très, très spécifique et très, très, très particulière. Tu peux pas aller chercher quelqu'un sur le parvis de l'église Saint-Roch puis l'amener de force dans cabane slash container. Là. C'est un petit peu plus complexe que ça. Puis, pour ceux qui n'ont pas vu l'image des mini-maisons, là, c'est pas les mini-maisons que vous voyez à Canal D. Là,
non, okay? Non, pas du tout.
Puis c'est pas non plus ce qu'ils font avec des containers dans des secteurs de villégiature de la province.
C'est ça.
Ça ressemble pas mal plus à...
un conteneur.
Les maisons de chantier. Là.
Ouais, conteneur coupé en deux.
C'est ça.
Deux petits studios avec la toilette puis la douche séparée avec le petit lavabo.
Je pense pas que quelqu'un ait le goût de s'étirer là longtemps, là, tu sais.
Parfait. Mais ouais. Tu fais quoi avec eux autres après? Tu les envoies où? Quand ils travaillent pas, tu les envoies...
Ouais, mais dans ma tête, c'est ça. C'est une clientèle spécifique qui est déjà sur un rebound. C'est des gens qui peut-être commencent une nouvelle job. Dans ma tête, là, parce qu'on n'a pas 60 des mini-maisons comme ça. Je vois ça comme un passage de 2 semaines pour des gens qui sont vraiment en transition pour redevenir des individus actifs ou qui le sont déjà. Tu régleras pas le problème de fond de l'itinérance, là, justement à cause de ça.
L'idée
là.
De l'Aubrivière, je l'aime bien. Les appartements qui sont en haut de l'Aubrivière,
c'est une
bâtisse, la bouffe est en bas.
Tout est là.
Là, c'est en haut, puis là, ils sont obligés de participer à des programmes pour réinsertion. Dans ce cas-ci, avec des petites maisons séparées, puis là, je regarde, c'est un projet qui est quand même d'un million de dollars, un point quelques millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Je me dis, OK. Ça a-tu déjà été essayé ailleurs ou bien c'est nous qui sommes précurseurs dans ces projets pilotes-là?
Il y a un résultat positif incontestable, c'est qu'il faut continuer de mettre d'en face des employés du gouvernement qui a de l'itinérance.
Voilà. 1034, on fait une courte pause, on vient. Merci, David. T'es un fan de...